l'auberge espagnole sur Divergence FM. Vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste, qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
Et c'est parti, je salue Gérard Viol qui réalise cette émission, Gilles Gouget dans le poste. De quoi allons-nous parler? Eh bien on va parler de génétique et vieillissement. Rencontre avec Simon Galas pour parler bien de ce vaste thème. Et puis ce sera ensuite Pierre Soto, architecte, qui viendra nous présenter l'exposition qui marque l'étape montpelliéraine du Design Tour. Mais pour l'heure, on va démarrer avec un tout petit peu de musique. On va parler vieillissement, alors c'est Double LX qui nous chante « Old and Grey ». Alors,
see my dentures. What's up, y'all? We hope you're enjoying the album up to this point. It means a lot to us that you're even listening. What's saying? My name's Surreal. My man never hooks the beats. Together we create what we call Double Helix. And this here is our freshman attempt at trying to build a foundation and have a fan base. And we just hope that y'all can stick around with us through the years and grow with us as people. Because we're going to be here. Keep creating fresh stuff, you know what I'm saying? So we appreciate your support now and in the future. Forget spitting rounds, do we try to stick around? Make a mark on this music with a slightly different sound than the rest. Still use the fundamentals fresh to keep the party bumping like the heart of my chest. You got a yes, yes, followed by y'all. We'll explain exactly why we in it for the long haul. Peace to the cats that paved the way. Was fresh in the past, but ain't the same today. We understand money is a part of success, but most people get the dough and forget about the rest. Like your lyrics, your rhymes, your life and your flow. Too many artists are concerned with they video. Not us though, trying to have a long career and do this for a decade like Goo and Premiere. Most cats you hear, you gotta spill out some beer. They was here yesterday, but be gone next year. You'll drop it like it's hot, we'll find a place in the shade. We're gonna rip your eardrum for many years to come. We totally refuse to be a flash in the pan. All we're trying to do is build a solid foundation by exhibiting high levels of discipline and patience. I'ma be rhyming when I'm 90 years old, rocking in my chair, perfecting a poem. Surrounded by a circle of my great-grandchildren, got them bugging, they didn't know Gramps had rhythm. Wife's in the kitchen, preparing a meal. We start discussing the days when I was called surreal. See, way back then, we was trying to make it happen. Uncle ever made the beats, and your Gramps did the rapping. Was known for battling with freestyle flows. Was nice with the pen and the pad and rock shows. A lot of people came just to see we play. They was down with the sound called EDK. After a while, we started to attract animosity. Crews got mad cause we formed a monopoly. We built like masons with the moves we made. We're gonna rip your eardrums for many years to come. We totally refuse to be a flash in the pan. All we're trying to do is build a solid foundation by exhibiting high levels of discipline and patience. The goal is
is to play till we're old and gray. Make some dough without giving our souls away. Break the mold of age with these scrolls of praise. Warm the globe with soul in these colder days. We behold the maze and locate the keys. Help free these MCs that are chasing cheese. Yo, we face disease, but these songs are our remedy. We gain momentum and maintain longevity beyond the century. We wanna live on. Remember, like the man flying kites in the storm, or the ones before him who challenged the norm, like the Taoists who explained how balance was formed. The devil tried to scorn, but we callous his horns. The Most High is the father of the talent we born. So it's God we praise every day the sun rays.
By the weak ones, baby.
We're gonna rip your eardrums for many years to come.
By the weak ones, baby.
We totally refuse to be a flash in the pan.
By the weak ones, baby.
All we're trying to do is build a solid foundation.
By the weak ones, baby.
By exhibiting high levels of discipline and patience.
By the weak ones, baby.
Double helix.
Yeah.
Ever surreal, you know. Ah. One, two.
Et voilà, c'était Double Helix. Et à présent, on reçoit le professeur Simon Gallas. Bonjour.
Bonjour.
On dit Gallas ou Gala
Gallas, c'est
Gallas, hein. Alors, vous travaillez à la faculté de médecine de pharmacie de Montpellier. Et vous êtes, on va dire, spécialisé sur les questions du vieillissement. Vous donnez assez régulièrement une conférence qu'on peut retrouver sur le site de l'université où vous retracez un petit peu, à la fois, on va dire, l'histoire des théories du vieillissement. Alors on s'attend à ce qu'il y en ait bien quelques-unes, parce que souvent quand il y a des théories, c'est qu'on cherche des réponses et que il faut des théories pour apporter des hypothèses, et puis après, quand elles sont confirmées, on a des éléments de réponse. On peut lire qu'on a recensé à la fin du siècle dernier pas moins de 300 théories du vieillissement. Pourquoi tant de foisonnement théorique autour de cette question qui préoccupe évidemment l'espèce depuis fort fort longtemps?
En effet, plus de 300 théories, oui, c'était le travail de recensement d'un scientifique russe qui s'appelait Zores Medvedev. Et pourquoi 300, pourquoi autant? On peut se poser la question, effectivement. Déjà, c'est assez intéressant que s'il y en a autant, c'est que beaucoup de gens se sont posé la question d'essayer d'expliquer le vieillissement et l'origine de la longévité et son déterminisme et sa mécanistique, mais également 300 parce que on va dire que comme c'est une question que l'humanité, et les scientifiques en particulier, à l'intérieur de cette humanité, se posent depuis très longtemps, on a affaire à quelque chose qui, littéralement, visite l'histoire des sciences. Et en visitant l'histoire des sciences, chacun va, à son rythme, proposer une explication à la longévité et au vieillissement en fonction des éléments qu'il avait à disponibilité autour de lui, à savoir les sciences de son époque. Et donc, on retrouve évidemment à chaque fois l'avènement de la biochimie, des théories biochimiques, l'avènement de la biologie moléculaire, des théories moléculaires. La particularité de ces théories, qui font qu'elles ont très longtemps un petit peu freiné l'émergence de nouvelles idées plus généralistes, plus ouvertes aussi, font que la plupart de ces théories peuvent être classées dans un champ de réflexion commun qui considère la mécanistique du vieillissement et de la longévité comme dépendant d'un mécanisme unique. Et on va retrouver là-dedans des choses que tout le monde connaît, évidemment, comme le raccourcissement des télomères, les radicaux libres et leur effet délétère sur les molécules du vivant. On va retrouver tout un ensemble de théories, y compris les radiations, qui font que ces théories-là, leur particularité, en majorité, est de tenter d'expliquer le mécanisme du vieillissement et de la longévité avec un mécanisme unique. Peu de temps après, donc, d'autres champs de recherche qui débutent avec évidemment Charles Darwin ont essayé de proposer, ont essayé de réfléchir aussi à ces questions-là. Et ça s'est soldé évidemment par un échec. Et on peut lire hein, dans le chapitre sur les extinctions publié par Darwin dans son ouvrage sur l'origine des espèces, je cite hein, « Aucune loi ne semble déterminer la durée d'existence d'une espèce donnée ». Donc ça partait mal, ça partait très mal même, mais le problème de Darwin est qu'il avait raison et il avait tort, c'est qu'il n'avait pas mesuré la puissance de sa théorie de l'évolution et de l'apparition de nouveaux gènes au sein d'une espèce hein, au cours de l'évolution, et il n'avait pas en fait prévu hein, l'application de sa loi et surtout l'application de sa loi à des âges différents d'un individu. Alors on peut retrouver ça dans un exemple simple et on va commencer cette fois-ci non pas par des théories de mécanismes uniques pour expliquer la longévité et le vieillissement, mais par des théories type, on les appelle sous ce terme-là, les théories évolutionnistes en référence à Darwin. Mmh. On a affaire dans ce cas-là, pour expliquer de manière simple comment ça fonctionne, le paradoxe de Haldan, donc un scientifique américain, qui est également anglais, et qui, dans 1941, a proposé une réflexion simple à ses collègues autour d'une maladie qui est connue de tous, qui est la chorée de Huntington, hein, qui, autour de 40 ans, provoque une paralysie, et puis s'ensuit le décès du malade. Une paralysie, tout simplement, parce que c'est une maladie qu'on connaît également sous le nom de chorée de Huntington. C'est des mouvements musculaires, donc c'est une maladie dégénérative des muscles, très très grave, et à forte pénétrance, comme on dit en génétique, chez les patients. Et Haldan a proposé tout simplement une réflexion, ce n'était pas un spécialiste du vieillissement du tout, ni de la longévité. Il a dit, bah, écoutez, cette maladie-là, imaginons maintenant qu'elle se déclare à l'âge de 6 ans. À votre avis, est-ce que cette maladie existerait encore ? La réponse est non. Évidemment, tout simplement parce que si à l'âge de 6 ans, un enfant atteint par cette maladie était paralysé et décédé, il n'aurait pas le temps de se reproduire et continuer à faire que la maladie soit présente, ou le gène malade hein, de la Huntington soit présent dans la descendance. Ce qui fait qu'avec le paradoxe de Haldan, émis en 1941, on se rend compte que des gènes qui nous font mal, qui éventuellement provoquent des maladies, à un âge qui est après la période de reproduction, eh bien, l'évolution telle que Darwin l'a proposée n'a aucun impact là-dessus et rien ne va les empêcher de rester. Or, si ces maladies-là se déclarent avant la période de reproduction, elles seront éliminées d'elles-mêmes.
D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux années 90, est-ce que le nombre de ces théories du vieillissement a diminué ? Parce que c'est vrai que sur les dernières années, on en parlera tout à l'heure, mais il y a eu beaucoup d'avancées. On voit qu'en ce moment, il y a beaucoup de révolutions, que ce soit dans les méthodes d'analyse, que ce soit dans les outils et les technologies qui sont à la disposition des chercheurs. Dans plein de domaines, en ce moment, on a un petit peu l'impression de faire des sauts de puce qui, à notre échelle, sont des pas de géant.
Absolument. Chaque technologie, chaque nouvelle possibilité d'observation du vivant permet à chaque fois d'une part de revisiter ces théories et d'autre part d'en faire apparaître de nouvelles. Parmi les théories du type de la famille des théories gérontologistes hein, qui prônent un mécanisme unique pour expliquer la longévité et le vieillissement, on peut citer récemment un travail d'un laboratoire canadien, essentiellement celui de Siegfried et Kimi, qui concerne les radicaux libres. Alors les radicaux libres et les effets sur le vieillissement des radicaux libres ont été proposés en 1956 par Denham Harman, un scientifique américain. Et sans toutefois pouvoir prouver que les radicaux libres et leurs effets sur les molécules du vivant étaient à l'origine du vieillissement et non pas une conséquence du vieillissement. On en est là. Et donc le travail de Siegfried et Kimi à l'Université de Montréal indique que des radicaux libres, en fait, si on les enlève à certains organismes modèles, notamment un petit nématode de 1 mm, un petit ver de 1 mm, qui s'appelle Caenorhabditis elegans, sur lequel je travaille depuis plusieurs années, si on se débrouille pour enlever les radicaux libres à cet animal-là, leur production, eh bien, il va vivre moins longtemps. Et si on les provoque de manière très très légère, en fait, le nématode va vivre plus longtemps que la normale.
Jusqu'à 10 fois
Pas jusqu'à 10 fois. Ça, c'est lorsqu'on combine évidemment plusieurs interventions qui permettent d'agir sur le vieillissement. Il faut savoir que dans les années 1993, un travail réalisé par le professeur Cynthia Kenyon de l'Université de Californie San Francisco a simplement par la manipulation d'un seul gène chez le même organisme modèle qui est le nématode Caenorhabditis elegans, a permis de doubler la longévité. Ce doublement de longévité a été obtenu tout simplement en diminuant artificiellement par les techniques génétiques l'activité d'un récepteur qui est dans nos cellules, que nous avons également, que l'on connaissons bien, qui est le récepteur à l'insuline. Donc simplement en diminuant l'activité de cette protéine-là, de l'activité de ce gène-là, on peut multiplier la durée de vie par deux d'un organisme modèle. Et en fait, le même résultat peut être obtenu chez d'autres organismes modèles, y compris plus évolués comme certains mammifères. Qu'est-ce que nous indique cette observation de 1993, publiée dans Nature à l'époque ? Elle nous indique tout simplement que, normalement, à tout moment, à toutes les époques de notre vie, si on extrapole à l'ensemble du vivant, qui possède également ces récepteurs à l'insuline, et il y en a beaucoup, eh bien, il y a des mécanismes actifs qui sont en place et qui font que nous vieillissons et nous mourons. Si on diminue l'activité de ces éléments moléculaires, eh bien, le bilan net est que l'on augmente la durée de vie, on diffère l'arrivée de la mort. Donc on a affaire à quelque chose qui n'est non pas quelque chose que l'on peut envisager comme passif, le vieillissement et puis tous les problèmes associés au vieillissement comme quelque chose de passif qui doit se faire et qui sont littéralement quelque part un petit peu dans l'ordre des choses, mais on a vraiment affaire à quelque chose qui fonctionne, qui travaille et qui dépense de l'énergie.
Donc ça veut dire que peut-être qu'on pourrait appliquer, parce qu'après se pose la question de la taille de l'organisme, alors un nématode c'est un minuscule ver tout petit, souvent qui parasite les racines des plantes par exemple, ou ce genre de truc, avec 959 cellules je crois à peu près, à peu près 100 milliards de cellules dans notre corps. Est-ce qu'on peut espérer un jour transposer ces techniques pour, on va dire, augmenter l'espérance de vie de façon plus notable qu'on l'a pu l'observer ces derniers siècles ou ces dernières années, grâce au progrès de la médecine, de la prévention, de l'hygiène, etc. Puisque c'est vrai qu'il y a une augmentation assez régulière de l'espérance de vie sur la planète.
Absolument. Un collègue très, 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 très expert et spécialiste dans ce domaine-là, qui est le docteur Jean-Marie Robin, qui est mon ami et qui pourrait vous en parler mieux que moi, mais il est clair que un des éléments majeurs dans les populations en Europe et dans le monde et qui a permis l'avènement entre guillemets d'une longévité notable et une sorte de cassure dans la longévité des populations, la longévité moyenne, et a été ce qu'on a appelé la transition épidémiologique, c'est-à-dire l'accès à tous et au plus grand nombre de la vaccination, des soins, de tout ce qui tourne autour des soins sur les pathologies cardiaques principalement, et tout un ensemble de médecine préventive, essentiellement au travers des vaccinations et de l'hygiène de vie. Cet aspect-là a fait que beaucoup d'individus de par le monde se sont retrouvés en situation de pouvoir globalement exprimer leur potentialité de longévité. Et Jeanne Calment a fait partie de ce train-là. Elle a échappé dans son temps à énormément de dangers, la grippe espagnole, il y a eu plusieurs guerres, qui l'ont amenée à décéder à l'âge de 122 ans dans une ville voisine comme celle d'Arles. Mais il est clair que pour extrapoler les observations sur ces organismes-là, il est intéressant de noter que le cheminement scientifique, en fait, procède par simplification. Et dans la plupart des cas, de grandes découvertes sont réalisées avec des systèmes très simples. Sur ce nématode, par exemple, qui un petit peu a dressé dès 1993 une sorte de paradigme sur lequel se sont accrochés beaucoup de scientifiques pour leur réflexion et aller au-delà, on a affaire à un organisme qui a, comme vous l'avez dit, 959 cellules au stade adulte, et c'est tout. Et donc, quand on dit que l'on va doubler la durée de vie de cet organisme-là, artificiellement en diminuant l'activité d'un gérontogène, cela veut dire que ce sont les mêmes paquets de cellules dont on va doubler la durée de vie. Chez l'homme, c'est un petit peu différent, c'est plus compliqué évidemment, et on a affaire à des cellules qui se renouvellent, on a des cellules souches, on a des choses très très complexes au sein de certains tissus et pas d'autres, avec une harmonisation qui est parfois complète ou incomplète, dans ce cas de certaines pathologies, sur le devenir des tissus à l'intérieur d'un même individu. Et là, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus complexe, mais la particularité et l'avantage de travailler au départ pour, entre guillemets, commencer à creuser un trou et dans le nuage ou dans le brouillard des idées, c'est de travailler sur des organismes plus petits comme celui-là, avec l'avantage que celui-ci, par exemple, mais ce n'est pas le seul, possède près de 60% de ses gènes avec des équivalents chez l'homme. Et de fait, le gène sur lequel on peut travailler facilement en diminuant son activité et en doublant la longévité de l'organisme qu'est ce nématode existe également chez l'homme, mais les gènes collaborateurs de celui-ci existent également. Et des études ont déjà été faites, notamment en Europe, en Tchécoslovaquie, au Japon, dans lesquelles on a maintenant des gènes identifiés sur des chromosomes chez l'homme, sur lesquels on peut regarder plus directement. On peut regarder et concentrer son regard sur ces gènes-là et voir un petit peu qu'est-ce qu'il arrive avec ces gènes-là chez des individus seulement quand on les prend à partir de 110 ans, c'est-à-dire ce qu'on appelle les supercentenaires. Et on se rend compte que dans ce cas-là, on va rencontrer des formes de ces gènes-là. Ils ne sont pas très différents des autres, mais ils ont certaines formes ou certaines petites modifications qui sont communes seulement aux supercentenaires. Donc ce n'est pas extrapolable directement à l'homme en tant que tel, parce que ce n'est pas du tout le même organisme, le fonctionnement est un peu différent, mais en termes des mécanismes fondamentaux conservés au cours de l'évolution, et j'en reviens à Darwin là-dessus, eh bien on a affaire à quelque chose qui permet de concentrer son regard sur l'essentiel et d'avancer de cette manière-là beaucoup plus vite.
Alors avant de conclure cette entretien, on va marquer une petite pause musicale avec la jeune femme en bleu. C'est le général Cazar qui nous interprète ce titre.
Thank you.
La jeune femme en bleu du général Alcazar, pour illustrer cet entretien avec Simon Gallas, professeur à l'Université Montpellier 1, faculté de pharmacie, laboratoire de toxicologie. Et vous étiez en février un des managing editors, c'est très anglais comme terme, d'un numéro spécial de la revue BioFuture sur la génétique moléculaire de la sénescence qu'on a abordé jusqu'à présent. Et puis pour terminer, alors on voit actuellement les recherches, notamment par rapport aux neurones, dont on a mis en évidence qu'ils avaient la capacité de modifier leur propre ADN au fur et à mesure, on va dire, de la vie de l'individu. Les gens savent bien évidemment qu'ils peuvent prolonger leur espérance de vie en ayant une alimentation correcte. Alors ici à Montpellier, le régime méditerranéen a fait beaucoup parler de lui sur la planète par rapport justement à la longévité des personnes. Avoir une activité physique régulière, mais finalement, qu'est-ce que peuvent faire les gens pour faire mieux fonctionner l'espèce de laboratoire de chimie et de génétique qu'est notre organisme en quelque sorte?
Alors il y a deux aspects sur lesquels il y a un aspect sur lequel il est possible d'agir tous les jours, un aspect sur lequel il n'est pas possible d'agir. Alors le premier, c'est sur lequel il est impossible d'agir, c'est la programmation de notre longévité à notre naissance, qui est déterminée à peu près autour et est évaluée par plusieurs études autour de 33%. Et puis ensuite, à côté de ça, donc il reste un peu plus de 70%, qui nous reste à trouver et dont les mécanismes sont actuellement à l'étude. Certains mécanismes, par exemple, sur certains organismes modèles, sont assez intéressants, notamment, par exemple, l'alimentation. Il a été possible chez certains organismes modèles d'être sûr que des animaux absorbaient les mêmes quantités de nourriture, mis à part qu'une partie des animaux ne sentait pas la nourriture, mais absorbait quand même la même quantité. Et les animaux incapables de sentir la nourriture vivaient 30% plus longtemps. Donc en fait, cette information-là indique que dans ce cas-là, il s'agit de l'information de la nourriture est plus importante que la nourriture elle-même. Mmh. Au niveau maintenant du métabolisme, il est clair que des surcharges pondérales sont connues pour impacter sur la longévité d'un individu, aux alentours de 6 ans. Par contre, on sait par les découvertes récentes de la plasticité des génomes que les mécanismes épigénétiques sont capables de nous modifier tout le temps, en permanence, en fonction de notre environnement et de ce que nous faisons. Deux jumeaux vrais, monozygotiques, comme on dit, n'auront jamais exactement la même durée de vie. Pourtant, ils sont strictement identiques. Et ça, c'est les mécanismes épigénétiques qui sont modulables en permanence par les influences extérieures, là où nous vivons, au froid ou au chaud, ce que nous mangeons, ce que nous faisons, etc., etc. Et il est clair que même ce que nous pensons influe également, puisqu'il y a une grande étude à grande échelle aux États-Unis, étude épidémiologique qui avait été réalisée il y a quelques années, montrait que, alors qu'une surcharge pondérale va éventuellement, potentiellement impacter 6 années de durée d'espérance de vie chez un individu, eh bien, se lever le matin avec une attitude optimiste va par contre bénéficier et est associé à une longévité augmentée en moyenne de 7 ans.
Voilà, donc soyez joyeux, soyez bon pied, bon oeil, soyez de bonne composition. C'est bon pour votre composition. Simon Gallas, merci beaucoup d'être venu sur les ondes de Divergence.
Merci.
Et puis, je précise qu'on peut retrouver votre intervention sur www.webtv.univ-montpellier2mntp2.fr. On retrouve le lien direct, car il est très très long, sur l'article de cette émission sur divergence-fm.org. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Au revoir. Un petit peu de musique et on se retrouve tout de suite.
Nothing as it seems that
Les excellents Mardi Gras Brass Band qui étaient il n'y a pas si longtemps, c'était sur la scène de la Secret Place. Si vous avez vu ce concert, vous avez dû bien vous régaler. À présent, c'est Pierre Soto qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour Gilles.
Alors, vous êtes architecte, vous êtes enseignant à l'ENSAM, à ne pas confondre avec les agronomes. C'est bien l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Et vous nous présentez Hybrid Design, Oser le design d'architecte, une exposition à découvrir du 5 au 8 décembre 2012 de 10h à 18h à l'Office de tourisme de Montpellier, place de la Comédie. L'entrée est libre. Et ça s'inscrit dans le Design Tour, une première en France après Lyon, Marseille et Bordeaux. Montpellier est la dernière ville revisitée par cet événement unique du design. Une manifestation dont c'est du coup la première édition.
C'est tout à fait la première édition. Donc Montpellier a été retenu pour participer au Design Tour. Et puis je tiens à rajouter que l'exposition, effectivement, se tient sur 2 jours, mais les travaux d'étudiants resteront à l'Office de tourisme durant tout le mois de décembre.
Ah, ça, c'est important parce que ouais. C'est vrai que les gens n'ont pas toujours. Ouais. Il leur faut un peu de temps pour qu'ils puissent visiter. Montpellier a été retenu pour participer à ce Design Tour. Peut-être que l'investissement historique de la ville dans l'architecture, parce que ça ne date pas de nouvel hôtel de ville ou autre, ça date quand même de longtemps, a joué un rôle dans le fait que Montpellier participe à cette manifestation.
Bah, il est évident que la dynamique de la ville participe à cette qualification, je dirais. Et puis l'école d'architecture qui s'intéresse notamment au design a été retenue pour porter les couleurs du design et du design mobilier.
Alors, qu'est-ce qu'on va y voir à cette exposition ?
Alors, on va voir des travaux d'étudiants, des travaux de recherche, de prospective, orientés sur 3 thèmes. Premier thème, la récupération d'objets. Puisqu'aujourd'hui, le premier gisement que l'on a d'objets, bah, ce sont les matériaux usagés. Et il faut que les jeunes designers se posent la question de savoir comment on peut redonner vie à ces objets déjà utilisés, et arriver à en faire des objets, mais ne pas tomber dans l'anecdote. Arriver à en faire des objets finis. Mmh. Et c'était ça l'enjeu. Ensuite, il y aura une autre direction, c'est le détournement. Comment on peut prendre un objet et le détourner de son usage et lui redonner vie à travers un deuxième usage. Et ensuite, le transfert de technologie, vous verrez dans les travaux, donc on a pris des transferts de technologie, notamment la roue orbitale, et on l'a appliqué au mobilier. Donc on a un projet de lampe, on a un projet de bibliothèque. Voilà. Et tout ceci dans une réflexion globale d'hybridation de l'objet, puisque nos intérieurs, nos appartements, nos espaces de vie sont de plus en plus petits. Et lorsqu'on arrive à trouver plusieurs fonctions au même objet, ça devient vraiment, on a une créativité extraordinaire.
Alors on l'a vu dans le mobilier, l'introduction pas super super récente, mais ça fait pas non plus 40 ans. Par exemple du carton, du carton ondulé qui sert maintenant. Il y a pas mal de gens qui font des meubles avec des canapés, etc. Et c'est vrai que par les temps qui courent, le recyclage, on va dire, devient une urgence en quelque sorte, hein, parce qu'il y a encore des filières à mettre en place, etc. Donc c'est sûr que si les designers se mettent à inclure la notion de recyclage dans leur travail, ça ne pourra qu'encourager les industriels à faire leur boulot.
Effectivement. Et puis c'est un matériau intéressant, puisqu'il n'est pas coûteux, qui peut répondre à des objets d'usage éphémère. Ça c'est une idée qui est portée donc par des étudiants qui arrivent sur la ville, des étudiants Erasmus, et qui sont confrontés à la question de l'équipement. Comment équiper un appartement, comment arriver à se loger, à s'installer à moindre coût. Donc en récupérant du carton, ils arrivent à donner forme, à modeler des objets. Et ce sont des objets qui peuvent aussi durer, hein, qui peuvent s'installer dans la durée.
Alors ça peut aussi s'inscrire dans des un petit peu à l'opposé, j'allais dire, dans des trucs super high-tech comme la notion de cocon numérique, un espace, on va dire, d'écoute multimédia dans lequel on se love, on s'enferme un petit peu comme dans un œuf, etc. Donc recycler ne veut pas nécessairement dire faire des colliers de nouilles comme on faisait à l'école quand on était petit.
Absolument. Bon, la préoccupation va être autre. Donc il y a une notion d'ergonomie, de s'installer, de relation à la forme. Mais surtout une préoccupation de choix de matériaux. Quel matériau on va utiliser et comment on va pouvoir le réinscrire ensuite dans la logique de recyclage. Donc c'est ce que l'on peut dire sur ce projet-là. Alors, ensuite, le projet est beaucoup plus complexe, donc il faut venir le voir. Donc vous verrez, il permet de prendre position, de s'installer et de travailler tout en se relaxant.
Voilà, puis il y a des choses autour de la lumière, qu'il s'agisse de la produire ou de la stocker en quelque sorte. Une exposition qui va envahir, on va dire, l'office du tourisme de Montpellier, et dont on précise que ce qui est à voir restera plus longtemps que les deux jours dont on faisait mention tout à l'heure.
Oui, absolument, ça va rester jusqu'à la fin du mois. Donc les étudiants seront sur place demain et jeudi. Donc vous pourrez les rencontrer, ils sont très sympathiques. Faut aller les voir, ils vous expliqueront leur projet et ils vous communiqueront tout l'enthousiasme qu'ils ont mis à mettre cette exposition en place.
Voilà, c'est du 5 au 8 qu'on pourra les rencontrer. C'est de 10h à 18h, donc on a quand même une bonne partie de la journée pour le faire. Pierre Soto, merci beaucoup d'être venu dans le studio pour nous présenter cette exposition. Et on retrouve évidemment toutes les infos sur www.ot-montpellier.fr pour l'expo. On retrouve un lien direct sur divergence-fm.org. Merci beaucoup.
Merci Gilles, merci à tous les auditeurs.